Léandre Béret.
Donald Trump harangue la foule, Kamala Harris privilégie le porte-à-porte. Les deux candidats appliquent des stratégies opposées à 9 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis. À New York, Donald Trump s'est présenté en sauveur du pays, détruit par Kamala Harris. C'était lors d'un meeting marqué par des insultes à l'égard des Portoricains. Ce sont d'ailleurs ses blagues racistes, ses commentaires misogynes aussi et des doigts d'honneur qui ont volé la vedette aux Républicains au Madison Square Garden, un événement censé donner le la de la dernière semaine de la campagne présidentielle. Jordan Davis, il est aigu cela.
Pendant 4 heures, des orateurs de la droitosphère et de la famille Trump se succèdent sur scène pour haranguer cette foule immense. Et pour vous donner une idée du ton, écoutez cet animateur de radio qui parle de Hillary Clinton en termes violents que je ne peux pas traduire à l'antenne.
She is some sick bastard, that Hillary Clinton, huh? What a sick son of a bitch.
Et c'est un véritable défouloir où Kamala Harris est moquée pour son identité multiraciale. On la qualifie d'individu à bas QI, ce qui renvoie au stéréotype des Noirs aux États-Unis. Un orateur la compare à une prostituée tenue par des macros. Sans parler d'un comédien qui a juste aligné des stéréotypes racistes pendant de longues minutes en qualifiant par exemple le territoire américain de Porto Rico d'île d'ordure et j'en passe.
Notre correspondant aux États-Unis, Jordan Davis. Gérard Depardieu ne fera pas face à la justice aujourd'hui. Le comédien français de 75 ans devait assister cet après-midi à sa première audience devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles et devait répondre d'agressions sexuelles sur 2 femmes. C'était lors d'un tournage en 2021. Gérard Depardieu sera absent pour des raisons de santé et va demander un renvoi, annonce ce matin son avocat. Ce dernier le dit extrêmement affecté, ajoutant que le comédien souhaitait s'exprimer sur les faits qu'il conteste. Le PS en Suisse tire à boulets rouges sur le PLR et le centre. Le coprésident Cédric Vermouth les accuse de copier l'UDC dans sa politique d'asile. C'était samedi, lors du congrès du parti à Davos. L'argovien faisait référence à la décision du Conseil national qui vise à interdire le regroupement familial des réfugiés issus de guerres civiles. Cédric Vermouth craint désormais un changement de dynamique au Parlement.
C'est un retour à une certaine dynamique, je pense. Le durcissement du discours sur l'asile, mais aussi les décisions qui sont prises maintenant. On a vraiment des décisions qui sont prises, par exemple, sur les requérants d'asile qui sont ressortissants des pays qui sont en guerre, qu'on n'aurait jamais imaginé. Il y a 10 ans, c'était des propositions de l'extrême droite que même l'UDC n'osait pas proposer au Parlement. C'est que du populisme sur la politique de l'asile. C'est un populisme très simple parce que ces gens ne peuvent pas aller voter dans les urnes et se battre pour leurs droits, on va le faire le plus possible.
Des propos recueillis par Mathieu Anderson. Le Premier ministre japonais reconnaît la défiance et la colère des électeurs au lendemain de sa lourde défaite électorale. Shigeru Ishiba a toutefois exclu de démissionner, promettant des réformes fondamentales au sein de son parti, entaché par un vaste scandale financier. Le Parti libéral démocrate gouverne le Japon presque sans interruption depuis 7 décennies. Il a perdu hier sa majorité au Parlement selon des projections. L'opposition pro-européenne appelle à manifester aujourd'hui en Géorgie. Elle veut dénoncer des législatives qu'elle décrit comme volées par le parti pro-russe au pouvoir. La présidente évoque une opération russe. Washington et Bruxelles réclament une enquête sur des possibles fraudes électorales. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi propose une trêve de 2 jours dans la bande de Gaza et la libération de 4 otages. Premier pas, selon lui, vers un cessez-le-feu complet. Alors que les négociateurs Israël, États-Unis et Qatar sont à Doha, sur place, la situation dans le nord de l'enclave ne cesse d'empirer. Les habitants manquent de nourriture et d'eau. Il n'y a plus d'équipe de secouristes, ni ambulance ou de personnel paramédical. Les civils se disent terrifiés. Une catastrophe humanitaire, d'après les Nations Unies. Le reportage d'Alice Froussard et Mohamed Ebid.
Dans le nord de Gaza, l'armée israélienne force littéralement les gens à quitter leurs maisons, à quitter leurs abris. Les hommes reçoivent un numéro, les femmes passent, les familles sont séparées les unes des autres et les habitants fuient, à pied, avec ce qu'ils peuvent, ne savent pas s'ils reverront un jour leur maison ou même le nord de Gaza. Comme Shirin Alijeri, une déplacée de Betlaya, tous décrivent l'horreur et la déshumanisation.
Les soldats ont arrêté les jeunes garçons et nous avons dû avancer. Nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. Nous avons continué notre chemin, mais les chars passent. À côté, nous recouvrait de poussière et les soldats nous humiliaient en nous demandant où était Sinoir, où était Agnès. Honnêtement, nous ne savons pas ce que vont devenir nos enfants. Tous les jeunes ont été arrêtés.
Une autre déplacée, Amina, raconte qu'elle est restée enfermée à Jabalia pendant 2 semaines.
La situation à l'intérieur de l'abri était très difficile. Il n'y avait dans le centre d'hébergement où nous étions ni eau ni nourriture. Quand nous avons évacué, l'endroit a été bombardé. Il y avait des morts et des blessés et le passage n'était pas accessible aux ambulances, alors beaucoup sont morts de leurs blessures.
Les habitants du Nord, ceux qui restent, parlent de tirs d'artillerie, de massacres autour de l'hôpital Kamel Adwan. Son directeur le précise, nous perdons au moins une personne toutes les heures à cause du manque de matériel et de docteurs.
Et au Liban, au moins 21 personnes ont été tuées hier dans plusieurs frappes israéliennes sur le sud du pays. Le chef des gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a mis en garde ce matin Israël contre des conséquences amères après ses frappes samedi sur des sites militaires en Iran. C'est selon l'agence de presse du pays. Et l'Irak proteste ce matin aux Nations Unies pour l'usage de son espace aérien par Israël. Un Français s'impose au Swiss Indoors 37 ans après Yannick Noah. Giovanni Mpeshi Pericard a remporté hier le tournoi balois en battant l'Américain Ben Shelton 6-4-7-6. C'est son deuxième titre sur le circuit ATP. Et météo, des nuages sur le plateau jusqu'à 700-900 mètres d'altitude. Jusqu'à cet après-midi, au-dessus et ailleurs du soleil, il fera jusqu'à 16 degrés en plaine, 19 en vallée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La petite compagnie, Juliette Granier.
Bonjour les amis, on va commencer ce matin avec un chœur d'ouverture d'une cantate pour une fête. Autant dire qu'il y aura plein d'enthousiasme et d'énergie. C'est la musique de Bar. C'est écrit pour la fête de Saint-Missel, Chelles et de tous les anges. Cette année-là, lorsqu'elle est créée, ça tombe un 29 septembre, donc c'est bien, c'est une musique qui va bien avec l'automne que l'on vit. Voici le Monteverdi Choir de Londres et l'English Baroque Soloist.
Thank you.
Magnifique exemple du fait que lorsque vous explosez la musique de Bach, il n'en ressort pas du chaos, mais bien des principes, des lois et des choses individuelles qui marchent bien en elles-mêmes. Ici, on entendait toutes ces voix se superposer et chacune a sa logique et son harmonie et elles sont parfaitement audibles individuellement et collectivement en se superposant. C'est quand même un petit miracle. Ici, la cantate pour la fête de Saint-Michel. Bach est donc le compositeur de ce morceau cœur d'ouverture qu'on entendait ici avec l'English Baroque Soloist et le Monteverdi Choir de Londres. John Eliot Gardiner à leur direction en 2006. Voici maintenant une symphonie. Alors c'est la deuxième de Beethoven. Je précise que ce matin, c'est tout Mitsukare qui a tout programmé. Donc on va écouter son choix, ses couleurs, ses goûts musicaux ce matin. Et donc, elle nous propose, bon, à l'exception peut-être du morceau qui viendra après, c'est pas interdit que je change de liste à Beethoven pour vous faire un petit parallèle. On verra. Pour l'instant, nous sommes avec Beethoven, la deuxième symphonie, qui a été composée en 1801 et qui est contemporaine de son troisième concerto. C'est pour cela que je me posais la question, est-ce que nous écouterions pas après le troisième concerto pour être un peu dans l'ambiance, pour se dire, ah ben à ce moment-là, il composait ainsi. Cette symphonie arrive alors que sa surdité se déclare. C'est donc un moment de grande remise en question. Vous imaginez bien le trouble pour un compositeur. Trouble et même dépression perceptible dans le fameux testament de Heiligenstadt où il dit au revoir au monde. Deuxième symphonie qu'on écoute ici avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig et Ricardo Chailly.
Thank you. Thank you.
C'est un exemple, ce genre de musique, qui montre que parfois c'est un peu difficile de faire une passerelle tout à fait directe et évidente entre les biographies des musiciens et les musiques qu'ils écrivent. Je vous parlais tout à l'heure de la surdité de Beethoven, du testament d'Heiligenstadt, qui est une lettre manuscrite où le compositeur qui a été envoyé à Vienne, à la campagne, pour reposer ses oreilles, en fait, témoigne de sa vie au moment de cette crise, hein, quand il y a sa surdité qui se déclare. Bon, mais ça n'est pas un état dépressif que l'on entend dans cette symphonie. Vous voyez, les parallèles directs, un peu trop évidents, ne peuvent pas se faire comme ça entre biographie et production musicale. En revanche, on sait que c'est à peu près à ce moment-là qu'il écrit aussi le troisième concerto pour piano et orchestre. Eh bien, je vous le propose avec l'Orchestre d'Israël et Radouloupou, c'est le rondo.
Thank you.
L'orchestre d'Israël et Radouloupou dans ce rondo du troisième concerto en do mineur de Beethoven. C'est maintenant avec Wagner qu'on va passer un petit moment. Alors j'en connais un de nos auditeurs qui s'appelle Edo, qui adore Wagner, qui a peut-être l'oreille qui va se tendre toute seule. Ne l'attendez pas trop, Edo, il ne s'agirait pas d'avoir une tendinite quand même. Alors, Wagner, avec Siegfried, qui est un opéra créé en 1876. Siegfried qui a un peu un écho chez Wagner, avec une histoire de Grimm. C'est Wagner lui-même qui le dit dans une lettre. Il raconte l'histoire du garçon qui partit apprendre ce qu'était la peur, qui est fondée sur un conte des frères Grimm. Histoire d'un garçon si stupide qu'il n'avait jamais appris à avoir peur. Alors j'en connais un, deux contes de Grimm comme cela. Et à la fin, ce qui est assez drôle, c'est que c'est l'épouse, pardon, il y a mon... Ah, il y a Sébastien Page qui me répond, alors ça je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. L'épouse du garçon qui n'a jamais peur réussit à lui donner peur en lui jetant un baquet de goujons froids dans le lit. Et là, il tremble, il dit « Mais qu'est-ce que je ressens? Je tremble, j'ai des frissons, tout mon corps s'agite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Ce sont des petits poissons. » Et en passant, c'est ça, la peur. Et pour Siegfried, eh bien, Mahler s'inspire de plusieurs textes dans des traductions de son temps, des textes antiques. Il y a la Völsunga saga, l'Edda et en poétique et en prose, ce sont des sagas islandaises. Il y a également le Nibelungenlied, une épopée médiévale allemande, la Fridreskaga. Qui est une épopée médiévale norvégienne. Il y a aussi la mythologie germanique de Jacob Grimm, la saga héroïque germanique aussi du même Grimm, enfin de son frère Wilhelm. Bref, 22 sources en tout, plus des textes philosophiques qui inspirent Wagner pour ce Siegfried. Et à ce moment-là de l'opéra, on est avec Siegfried qui se dirige vers la caverne du dragon Fafner. C'est le méchant nain Mime qui l'y emmène. Et Siegfried n'est pas effrayé par la perspective d'affronter le dragon. Vous vous souvenez, le jeune garçon qui n'a pas peur. Il s'allonge sur la mousse pour écouter les murmures de la forêt et méditer sur la mort tragique de ses parents, Sieglind et Siegmund, qui ont été sacrifiés par le dieu Wotan. Donc là, nous sommes avec lui, les murmures de la forêt. Donc nous étions avec Wagner en forêt, dans un passage heureux de Wagner, ça s'appelle Les murmures de la forêt, dans un extrait de Siegfried, son opéra ici avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Georg Scholti, en 82 à Zurich à la Tonhalle. Et puisque nous sommes en forêt, j'ai encore un petit peu bousculé la programmation de Mitsukare pour remplacer un prélude et fugue de Franck par trois extraits des Waldszenen de Schumann, avec l'entrée, le lieu solitaire et le paysage aimable ou amical. Ici, nous écoutons Mariage au Pirège.
Thank you.
Alors, je dois mes excuses à un interprète de la région qui s'appelle Fabrizio Chiovetta parce que je me suis méprise. Le premier morceau de cet extrait des Waldszenen, scène de la forêt de Schumann, n'était pas joué par Maria João Pérez, mais par Fabrizio Chiovetta. Et ensuite, les deux autres petits extraits étaient effectivement joués par Maria João Pérez. J'étais un peu vite dans mes gestes et donc j'ai mélangé un peu les interprètes. Bref, j'ai fait de la paella avec des spaghettis. Nous avons reçu un mail extraordinairement fourni de notre auditeur Stefano qui nous propose tout plein de propositions. Et à vrai dire, il y en a tellement que je crois qu'on en a jusqu'à la fin de l'année. C'est super. Elles sont numérotées. Alors déjà, il y en a 8 par page et j'ai 18 pages. Et il y a 86 propositions. C'est énorme. Merci Stefano. J'ai l'impression d'avoir acheté une brocante en entier. C'est génial. Alors ça va de Yo-Yo Ma à Paolo Frezu, de Tom Jones aux Chieftains, de Amina Alaoui à Anya Lechner, Ariana Savai, Gia Cancelli, Duke Ellington. Bref, il y en a pour tout le monde. Puis c'est la loi de l'abondance. On demande un petit peu, puis il y a beaucoup qui arrivent. C'est hyper réjouissant. Merci beaucoup. On va écouter maintenant de nouveau les propositions mitsuesques avec la musique de Dvorak, cette fois-ci l'OCL, Kazuki Yamada, le violoncelliste Jean-Guillain Queyras. Il s'agit du silence, et pas n'importe lequel, celui de la forêt. Le silence de la forêt. Évidemment, c'est difficile de mettre le silence en musique, puisque par définition, cela se contredit. Mais on peut aussi évoquer le calme intérieur que le silence nous provoque et la paix qu'il nous donne. Ici, l'Orchestre de Chambre de Lausanne avec Kazuki Yamada en 2011 était pris par les micros d'Espace 2. Jean-Guillain Queyras au violoncelle. Il est 10h, voici les infos.